Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, la droite et Renaissance s'allient à la métropole. Interview avec Claire Cariou qui sort un livre après 1400 km à vélo à la rencontre des acteurs du zéro déchet. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une visite d'exposition. Vivre le sport, c'est à voir au musée de Bretagne jusqu'en début d'année prochaine. Et puis, recommandations, plusieurs actions de l'association France-Palestine Solidarité à Rennes cette semaine. Bienvenue dans l'arène. C'est parti, l'émission d'information locale, elle commence toujours avec l'info du jour, une que je choisis parmi d'autres dans la presse locale et aujourd'hui on le lit dans le quotidien local Ouest France. Les élus d'opposition Charles Compagnon et Carole Gandon forment une alliance. Pour rappel, les deux sont également conseillers municipaux à la ville de Rennes, le premier dans le groupe d'union de la droite Libre d'agir pour Rennes, la seconde dans le groupe politique Renaissance Révéler Rennes. Ils ont souvent eu des positions similaires, notamment sur les questions sécuritaires, ou ont plus récemment exprimé une même colère suite à la panne de la ligne B du métro. À Rennes Métropole, Carole Gandon et Charles Compagnon siègent tous les deux dans l'opposition. Charles Compagnon, jusqu'à présent avec le groupe Agir pour la Métropole. On précise qu'il porte depuis le printemps 2023 l'étiquette Horizon, c'est le parti lancé par Édouard Philippe. Carole Gandon, elle, n'avait pas de groupe politique car elle ne comptait pas d'élus installés hors de Rennes, ce qu'il faut pour y prétendre. Alors lundi 3 juin, Carole Gandon et Charles Compagnon ont annoncé se réunir avec leurs élus au sein d'un même groupe, son nom, Ensemble pour Rennes Métropole, un groupe dont le poids restera faible avec 9 élus sur 112 conseillers métropolitains, mais qui préfigure sans doute une alliance pour les prochaines élections municipales à Rennes en 2026 et qui va dans le même temps rendre la position de l'élu macroniste Carole Gandon assez difficile à tenir. Comment revendiquer un héritage socialiste comme elle le fait en faisant politique commune avec la droite? Allez, après cette info, on passe à l'interview du jour. Claire Cariou, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes la fondatrice de Côte Waste Zéro Déchet, une association bretonne qui sensibilise le public, différents publics d'ailleurs, à la réduction des déchets. Et vous vous apprêtez à sortir un livre dans quelques mois qui est issu d'un périple à vélo dans la région à la découverte d'acteurs qui défendent justement le zéro déchet. Il y a une prévente en cours, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. On va y revenir. Avant d'arriver à ce gros projet qui vous a pris plusieurs années, on redit peut-être le point de départ au lancement de cette association Côte Waste Zéro Déchet.
Côte Waste a été créé en 2019. Je me suis retrouvée en 2017 à aller habiter toute seule, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et j'avais entendu parler de la démarche de réduction des déchets, mais vraiment de loin. Et je me suis dit que j'allais profiter d'être toute seule pour faire un peu comme j'avais envie. Et ça me titillait cette histoire de réduire ses déchets. Donc j'ai essayé, j'ai trouvé ça génial et j'ai eu envie de le partager. Puisque ça fait 7 ans maintenant que j'ai commencé et j'ai toujours pas trouvé d'inconvénient à la démarche. Donc j'ai eu envie de partager ça, c'est pour ça que j'ai monté l'association, pour pouvoir proposer des ateliers, des animations et raconter mon expérience.
Ce partage, vous l'opérez auprès de différents acteurs, il y a des citoyens mais aussi des collectivités locales et des entreprises?
Oui, et le public scolaire aussi. J'ai beaucoup été déjà en voir les jeunes dans les établissements scolaires, donc des maternelles jusqu'au lycée professionnel et même jusqu'en AFPA. Donc oui, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout un chacun, puisque a priori, tout le monde produit des déchets.
Et votre territoire d'action, c'est lequel?
Alors, on est dans le Finistère, dans le Cap-Sizun. Et donc le territoire d'action, c'est beaucoup le Cap-Sizun, le Finistère Sud et plus généralement le Finistère.
Et alors j'imagine qu'il y a un peu différents niveaux pour parler zéro déchet et réduction des déchets à ces différents publics, avec des choses peut-être un peu plus simples à mettre en place et en allant vers des choses plus complexes selon les niveaux.
Ce qui est génial, c'est que c'est toujours la même philosophie. Réduire les déchets, ça passe juste par un changement de regard. tout ce qu'il faut pour réduire les déchets, c'est changer son regard et en avoir envie. C'est les deux composantes principales. Et donc ça s'applique peu importe qu'il s'agisse d'enfants dans les écoles ou d'agents des collectivités ou encore de personnes dans les entreprises. Ça sera toujours la même philosophie qui va être appliquée. Par contre, la réalité, le côté concret, les détails, les astuces, etc. vont pas être les mêmes, bien sûr, si on s'adresse à quelqu'un pour réduire les déchets à la maison ou bien réduire les déchets de manière collective et professionnelle.
On imagine que ça amène à parler fait maison, notamment comment faire son dentifrice ou encore sa lessive, mais aussi à parler circuit court ou encore achat en vrac. Alors j'ai regardé aujourd'hui, un Français, il produit en moyenne 525 kilos de déchets par an. Il se trouve qu'on est encore loin des objectifs de réduction, avec même depuis 2015 une augmentation de ces quantités de déchets produits à l'échelle nationale. On peut dire que tout reste à faire aujourd'hui pour changer nos comportements.
Oui, il y a beaucoup à faire. Disons qu'il y a une industrie du plastique qui pousse énormément au niveau mondial pour mettre de plus en plus de plastique sur le marché, parce qu'il y a un intérêt financier très fort. Hein. Le produire du plastique, ça coûte très peu. Donc, il y a une industrie qui pousse derrière pour un peu plastifier le monde en quelque sorte. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on a vécu jusqu'aux années 50-60 sans utiliser plastique. Donc les humains sont capables de fonctionner sans avoir du plastique à tous les niveaux dans la vie du quotidien. Après, nous, ce qu'on explique, c'est que le plastique en soi, c'est pas ça qui pose problème, c'est l'utilisation massive et systématique. Le plastique rend énormément de services et heureusement que ça a été inventé pour bien des choses. Par contre, ce qui pose problème, c'est quand on utilise du plastique jetable, là où on pourrait utiliser très facilement autre chose.
Alors, on arrive au livre que vous vous apprêtez à publier, un gros projet qui n'a peut-être pas encore son nom définitif ou si ?
Si, ça y est, le livre. Donc oui, ça a été toute une histoire pour trouver le livre, parce que le contenu est à la croisée de plusieurs thématiques. Donc, on ne savait pas trop sur quoi l'axer. Finalement, le titre, c'est « En selle vers la réduction des déchets » et le sous-titre « Témoignages de professionnels qui ont osé s'y mettre ».
Donc, c'est un livre de 240 pages qui a été réalisé en auto-édition. Vous n'avez pas réussi à trouver d'éditeur pour ce projet-là. Et puis, un projet qui s'est étalé sur le temps long. Il a été lancé il y a 2 ans, voire même un peu plus.
Oui, alors l'origine du projet, c'était le besoin d'aller voir comment ça se passe chez les professionnels. Et donc ça, le travail a commencé en janvier 2021, donc c'était il y a 3 ans et demi, et la rédaction du livre vraiment a débuté en janvier 2022, donc il y a 2 ans et demi.
Votre idée, alors au départ vous souhaitiez explorer ce thème à l'échelle européenne, mais il y a le Covid qui est arrivé, donc vous avez ramené le projet à l'échelle bretonne, et votre idée c'était la suivante: parcourir le Trobrez à vélo à la rencontre d'acteurs qui pratiquent et qui promeuvent le zéro déchet. On redit par où il vous a fait passer, ce Trobrez, qui à la base est un circuit d'un pèlerinage catholique qui parcourt les villes des 700 fondateurs de la région. Vous êtes passé donc par plusieurs villes, essentiellement sur la côte.
Oui, c'est ça. Alors moi, je l'ai appelé Trobrez parce que c'était un tour de Bretagne, et comme je parle breton, c'était plus rigolo et plus facile pour moi de reprendre, en effet, de faire un clin d'œil à cette tradition du tour de Bretagne, même si voilà, il n'y a pas du tout de visée religieuse dans mon projet. Donc je suis partie du Finistère Sud, de chez moi, dans le Cap Cisin, et je suis revenue après 2 mois et 1 400 km à ce même point, à mon point de départ, et en traversant donc les 5 départements de la Bretagne historique.
Ce qu'il faut préciser, c'est que vous vous décrivez plutôt comme une aventurière du dimanche, vous avez eu peu de préparation physique, ça a donc été un défi sportif, ce parcours sur votre vélo qui s'appelle Marc, c'est ça ?
Mar, c'est du breton, ça veut dire cheval, puisqu'en breton, vélo se dit marhouarn, cheval de fer. Mais c'était trop dur à prononcer, donc je l'ai appelé Mar, tout simplement. Donc oui, c'était assez difficile pour moi, parce que je suis pas particulièrement sportive, encore moins cycliste. Je me suis assez peu préparée comparativement à ce qui m'attendait. Le vélo pesait 35 kilos avec les sacoches, et c'était un printemps où il y a eu énormément de vent. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Voilà, et c'était pas un vélo électrique, donc physiquement, pour moi, c'était un sacré défi. J'étais même pas sûre de réussir à terminer le tour.
Il vous a fallu quel temps pour parcourir ces 1 400 km à vélo d'une seule traite, hein ?
Alors, c'était. Oui, je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai mis 63 jours exactement. En sachant que le déplacement à vélo, c'était le moyen de transport entre deux rendez-vous. Parce que donc j'ai rencontré 38 structures professionnelles, quelques publics et principalement des entreprises privées. Et donc entre ces rendez-vous, je rencontrais aussi des membres d'associations, des indépendants qui vont dans le sens du zéro déchet, des personnes aussi qui avaient envie de rouler avec moi. Donc j'ai rencontré pas mal de monde, j'étais logée chez l'habitant, j'ai eu 44 points d'hébergement. Et entre tout ça, je circulais à vélo. Donc le vélo, c'était vraiment juste le mode de transport.
Donc 38 structures publiques et privées qui ont été identifiées, que vous avez rencontrées avec toute une diversité de profils. Il y avait des restaurants, exploitations agricoles, un mareyeur, des communautés de communes, vous l'avez dit aussi, des établissements scolaires, salons de coiffure. Peut-être s'arrêter sur la région rennaise, puisque c'est le territoire où on diffuse nos programmes. Aussi un territoire dynamique sur la question de la réduction de déchets.
Alors oui, j'ai trouvé beaucoup beaucoup d'initiatives à Rennes. C'était un endroit où j'ai passé plusieurs jours parce que j'avais vraiment de nombreuses structures à voir. Déjà, j'ai rencontré quelqu'un à Rennes Métropole où on m'a expliqué ce qui était fait pour favoriser la réduction des déchets pour la population. Et puis j'ai rencontré aussi Marion de la pâtisserie 16h30. Où il y a un travail formidable qui est fait pour fabriquer des pâtisseries, des gâteaux en produisant le moins de déchets possible et c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. J'ai rencontré aussi l'association Pacadur qui a lancé le projet Emboîte le plat qui propose des contenants pour la vente à emporter de plats et de boissons. C'est vraiment génial ce qu'ils font, ils arrivent à éviter énormément de déchets grâce à ça. Et puis j'avais rencontré aussi Mélanie qui avait monté la structure Albertine en consigne, dont le principe était d'aller chercher les produits dans les fermes aux alentours de Rennes et de les ramener dans le centre-ville avec le moins d'impact possible et en zéro déchet. Et enfin, j'ai rencontré à Rennes quelqu'un de l'équipe de Distro. Donc Distro, c'est une structure qui est en train de travailler là intensément pour remettre le réemploi du verre en Bretagne. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle.
Est-ce que ailleurs sur le territoire breton, il y a une rencontre qui vous a plus marqué que les autres?
Oui, il y a certaines où ça m'a fait des papillons dans le ventre. Par exemple, j'ai rencontré Tiphaine Turlus des bottes d'anémone dans le Morbihan, dans le golfe du Morbihan. Et sa démarche est merveilleuse, elle est fleuriste. Et avant de la rencontrer, j'avais jamais réfléchi que les fleurs, c'est comme les légumes. En fait, c'est beaucoup mieux quand c'est deux saisons, quand c'est local et quand c'est bio. J'avais jamais réfléchi à ça. Et elle a une démarche où voilà, elle travaille avec des fleurs françaises, mais des fleurs françaises où c'est voilà, cultivé de manière propre, sensée, humaine. Et depuis, elle a monté une ferme florale pour produire ses propres fleurs. Et elle a une démarche, mais quand elle raconte son travail, ça donne envie de lui faire des bisous. C'est vraiment, ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Mais au final, toutes les rencontres que j'ai faites étaient extrêmement motivante et positive. C'était génial de voir qu'il y a autant de monde qui mettent des choses en place, la plupart du temps de manière très silencieuse et très discrète. Mais c'était vraiment super de rencontrer toutes ces personnes qui ont décidé de modifier les fonctionnements classiques pour en faire des choses plus vertueuses et surtout avantageuses.
On imagine justement qu'il y a donc des avantages communs à ces différents projets, qu'il s'agisse d'entreprises ou de collectivités locales, des avantages économiques, environnementaux évidemment, et même sociaux. Il y a aussi des contraintes qui vont avec de tels engagements, parfois liées aux filières, trouver les fournisseurs de façon pas trop compliquée, en n'allant pas à plein d'endroits différents pour se fournir. Le livre, il est aussi pensé un peu comme presque un mode d'emploi pour d'autres professionnels qui souhaiteraient s'y mettre. Il y a plein de conseils, des recommandations, parfois aussi de livres pour aller plus loin.
Oui, c'est ça exactement. Mon objectif en allant rencontrer tous ces professionnels, c'était de partager leurs pratiques, de diffuser, de montrer. Parce qu'on me dit souvent que c'est pas possible de faire ça. Et je me suis dit, mais si, je suis sûre que c'est possible et je suis certaine que, y a des personnes qui le font. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller les rencontrer et pour montrer, bon ben, regardez, ici ils font comme ça, là ils font comme ça, là ils ont trouvé cette technique-là. et pour encourager d'autres à s'y mettre, pour démystifier un peu cette réduction des déchets à laquelle on colle beaucoup d'a priori, que ça serait trop compliqué, trop cher, trop long, etc. Et pourtant, c'est une démarche qui est progressive, qui est adaptée à chaque structure, qui apporte vraiment des avantages et surtout qu'on ne fait pas tout d'un coup, tout de suite, de manière parfaite. Il y a vraiment cette idée qu'il faut être parfait tout de suite, mais non, on commence par ce qui est facile et ensuite on évolue petit à petit. D'ailleurs, on le voit dans le bouquin, chaque structure présente sa piste d'amélioration. Donc, toutes les démarches sont imparfaites et oui, l'objectif, c'était vraiment d'aider, d'inciter d'autres, parce que parfois on aimerait bien, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre, on ne sait pas comment commencer. Moi-même, quand j'ai commencé à réduire mes déchets à la maison, j'ai acheté un livre pour savoir comment faire, parce que j'en avais aucune idée.
Si on discute aujourd'hui, Claire Cariou, c'est que votre livre, il va bientôt paraître vers la prochaine rentrée. On redonnera la date quand ça se précisera. Peut-être dire un mot sur l'équipe qu'il y a autour de vous pour rendre ce projet d'ouvrage possible. Un livre donc de 240 pages qui, on le redit, s'intitule « En selle vers la réduction des déchets ». Vous vous êtes entouré de plusieurs personnes.
Oui, alors comme il n'y a pas de maison d'édition, moi j'avais pas envie de passer par des plateformes en ligne pour donner une forme au livre. J'ai trop de respect pour la chaîne du livre et puis pour le travail local pour fonctionner comme ça. Même si j'ai cru depuis comprendre qu'il y avait des plateformes locales. Bref, donc je me suis entourée d'une correctrice pour les corrections, la relecture, l'harmonisation, la vérification des sources, qui s'appelle Sarah, qui est basée à Nantes. Et puis une graphiste qui fait un travail exceptionnel, comme Sarah, qui s'appelle Céline, et qui est à Saint-Brieuc.
Et on peut ajouter qu'il y a une préface qui est signée de Rob Hopkins, qui a initié un réseau qui s'appelle Les Villes en Transition et que vous admirez.
Oui, je l'avais rencontré il y a pas mal d'années déjà et je lui avais dit j'ai l'impression d'avoir 15 ans et de rencontrer ma rockstar. Et j'aime beaucoup son travail parce qu'il est axé vraiment sur le positif, sur les projections positives comme moteur d'action, je trouve ça génial. Donc là j'ai été le revoir et je lui ai demandé de m'aider. Et il a accepté de m'aider en co-signant la préface avec Xavier Combe qui est son interprète français.
Ce livre-là dont on parle, il est actuellement en pré-vente sur la plateforme de financement participatif helloasso.com. Son tarif, il est de 23 euros. On peut donc déjà réserver son exemplaire. Est-ce qu'il y a une date de fin pour cette pré-vente ?
Non, je pense laisser la plateforme ouverte plus tard, même quand le livre aura été imprimé, pour pouvoir l'acheter en direct pour les personnes qui ne le trouvent pas forcément en librairie ou dans un point de vente près de chez elles.
Et votre périple, là, donc de 1400 km à vélo sur les routes de Bretagne, il a aussi été documenté d'une autre façon, avec donc un film documentaire qui a été réalisé par Lauriane Courson. On peut aussi acquérir un exemplaire du film, toujours sur helloasso.com. Et le film, il s'intitule Cheval de fer. Elle est restée avec vous un petit moment, en fait, du voyage ?
Elle est venue me rejoindre de temps en temps. Donc elle avait filmé déjà toute la préparation du voyage parce que pour moi c'était 4 mois de préparation très intense et elle est venue me rejoindre régulièrement à vélo. D'ailleurs c'est un petit peu à cause d'elle que je l'ai fait à vélo parce qu'elle est sportive et elle m'incitait à le faire à vélo pour être plus cohérente dans ma démarche et puis elle a fini par me dire écoute si tu le fais à vélo je tourne un documentaire.
Et donc, plus le choix.
Donc, comme je voulais que les pratiques soient vues, j'ai dit d'accord, mais vraiment à mon corps défendant.
Un mot pour terminer sur la suite. Donc, le livre, il sortira au début de l'automne, a priori. Vous referez le Trobraise pour présenter votre livre, mais pas à vélo cette fois.
Exactement, pas à vélo, non.
Vous avez déjà prévu toute une série de rencontres, de conférences, d'échanges. Les structures ou librairies qui pourraient être intéressées peuvent d'ailleurs vous contacter si elles souhaitent organiser un temps d'échange. Et il y a aussi votre projet qui se confirme, notamment avec un volet formation professionnelle, c'est ça, mené en collectif, si je ne me trompe pas ?
Oui, c'est ça. Ça, c'est le projet. Donc, j'ai commencé à bien travailler dessus déjà. Donc, l'idée, c'est d'intervenir dans les entreprises pour des ateliers, des conférences, mais aussi de la formation professionnelle sur la réduction des déchets à la source, vraiment sur ce changement de regard pour pouvoir opérer des changements ensuite opérationnels dans l'entreprise. Donc voilà, l'idée c'est de se constituer en réseau à plusieurs tout autour de la Bretagne. Mais voilà, là c'est, on se rend compte que c'est pas le bon moment pour lancer ça avec les entreprises qui sont déjà prise avec énormément de gros dossiers, notamment coût de l'énergie, coût des matières premières, difficultés de recrutement, etc. Donc là, on se rend compte que la réduction des déchets en entreprise, malheureusement, c'est pas la priorité en ce moment.
Donc, vous allez patienter, quoi.
Oui, oui, complètement, oui, oui. De toute façon, c'est une thématique que je pense que je n'abandonnerai jamais. Ça me procure tellement de bien et... Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'avantages et beaucoup de plaisir à partager cette démarche. Ça a énormément de sens. Voilà, c'est juste une petite pause pour ne pas aller à contre-courant et s'épuiser. Voilà, juste patienter que ça soit le bon moment pour relancer beaucoup d'énergie là-dessus.
En selle vers la réduction des déchets, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez imaginé. Claire Cariou, vous êtes la coordinatrice de cette association bretonne Côte Waste Zéro Déchet qui sensibilise le public à la réduction des déchets. Pour pré-acheter son exemplaire de l'ouvrage, ça se passe en ligne sur la plateforme helloasso.com. Le tarif est de 23 € et on vous retrouve également sur un site internet et sur les réseaux sociaux pour découvrir tous vos bons conseils. Merci beaucoup Claire.
Avec grand plaisir, merci à vous. Oh, children of England, your emollient is running into for Solent. The kiss of a crackhead is greater than the obsequious behavior of your politicians. Oh, so secret doubts of one kind, double screaming.
Par Poté et Damon Albarn. C'était le choix musical de Claire Cariou qu'on vient d'entendre dans une interview. Un morceau à retrouver sur l'album A Tenuous Tale of Her. C'est sorti en 2021 et c'était le premier disque de Poté, ce producteur et chanteur britannique que vous venez d'entendre dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. C'est une émission qui vous tend son micro si vous avez des actions ou des événements à mettre en lumière auprès des auditeurs, qu'il s'agisse de lutte environnementale ou sociale, de vie étudiante ou rurale, de projets associatifs, tant que ça rentre dans le champ de l'information locale et que ça n'a pas un but purement lucratif, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. poursuit avec un reportage réalisé par Ambre, étudiante en stage à Canal B jusqu'à la semaine dernière et qui est depuis retournée sur les bancs de la SCOL à Guichin. C'est une formation au métier d'animateur radio. Alors la semaine dernière, elle découvrait l'exposition « Vivre le sport ». C'est à voir au Musée de Bretagne jusqu'en février 2025. Une valorisation des collections photographiques qui sont liées au sport à l'occasion, vous l'imaginez, des Jeux Olympiques de Paris 2024. En plus d'une centaine de photographies, le public pourra aussi découvrir des extraits de films de la Cinémathèque de Bretagne ainsi que des objets issus d'une collecte. Et surtout, l'entrée, elle est gratuite.
Je m'appelle Nathalie Boulou, je suis historienne de la photographie et commissaire de l'exposition « Vivre le sport ».
Et donc à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Musée de Bretagne a choisi de mettre en lumière ses collections photographiques liées à la thématique du sport ici au Champ Libre à Rennes. Et c'est une première.
Oui, c'est une première occasion de parcourir cette très riche collection photographique à travers cette thématique du sport et d'associer aussi deux autres collections, celle du service de l'inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne, dont nous présentons le travail à travers quelques photographies, ainsi que les collections de la Cinémathèque de Bretagne, puisque dans l'exposition, il y a quelques extraits de films qui viennent jouer de leur complémentarité avec les images fixes qui sont présentées, et il y a une centaine de photographies qui sont exposées.
Et donc ensemble, là aujourd'hui, nous allons parcourir cette exposition qui interroge le lien entre photographie et sport.
Oui. Donc, entrons dans l'exposition.
C'est parti.
Donc, pour essayer de décrire un petit peu l'ambiance que je souhaitais faire partager aux visiteurs, cette exposition, elle se construit un peu comme un crescendo, un peu comme l'expérience que l'on a lorsqu'on va voir un match ou une compétition. Donc, la première salle surjoue un petit peu la référence à un équipement sportif avec des photographies en couleur de lieux vides, qui sont pour l'essentiel des photographies issues du travail du service de l'inventaire dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on entre dans ces lieux qui sont vides d'activité, qui sont silencieux, un peu comme quand on entre dans un stade avant un match ou une compétition, ou dans un gymnase. Donc ça, c'est une sorte d'espace un peu immersif qui a pour but aussi de rappeler que le sport, c'est des émotions, c'est des souvenirs que nous avons chacun à titre individuel ou collectif. Et donc ces lieux, ils sont chargés de ces souvenirs, de ces émotions, peut-être même de ces odeurs parfois. Donc c'est un peu cette idée de vraiment entrer très en douceur dans ce premier espace d'exposition.
C'est une esthétique qui est complètement différente de celle des moments d'action.
Oui, c'est ça aussi qui est inattendu, c'est que effectivement là, on est vraiment dans ces lieux qui attendent justement d'être occupés par les activités sportives, par l'action et aussi par la rumeur, le bruit, la liesse du public qui va accompagner justement ces moments sportifs qui vont se dérouler dans ces lieux.
Il y a une certaine tension qui émane de ce vide, de ce silence presque.
Alors là aussi, ces images, effectivement, elles évoquent le silence. Et donc, à certains moments, on a fait une petite création sonore qui vient justement évoquer certains bruits familiers qui sont là aussi une forme d'évocation de souvenirs sonores que l'on a pu vivre dans ces lieux.
Que serait le sport sans les images ?
Alors la question effectivement qui est adressée aux visiteurs à la fin de cette phase un peu d'immersion dans les images, c'est justement de lui demander que serait le sport sans ces images. Aujourd'hui, on est complètement immergé par les images de toutes sortes. Et donc là, le propos de l'exposition va être justement de dérouler un peu le fil de cette histoire entre sport et photographie et comment la photographie a été et est toujours l'un des principaux outils de production des images du sport. Donc ça se fait dans l'exposition en plusieurs moments. Les deux premières séquences, elles vont plutôt dessiner ce que j'appelle les éléments de la rencontre amicale qui se tissent entre une technique, la photographie, qui est inventée en 1839, mais qui surtout va rencontrer le sport dans les deux dernières décennies du 19e siècle, parce qu'il y a un progrès technique important qui se produit en photographie, qui est l'arrivée d'un procédé qui s'appelle le procédé au gélatino-bromure d'argent, qui permet de faire de la photographie instantanée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, donc des années 1800-1890, on peut photographier le mouvement. Et donc, évidemment, le sport, qui est similaire au mouvement, va être un sujet qui très vite va être intéressant pour les photographes. En réponse finalement à une sorte de défi technique, hein, puisque on va valider avec le sport les capacités de cette technique photographique.
Il y a du challenge des deux côtés.
Exactement. Donc dans la séquence rencontre amicale, c'est vraiment l'idée de donner des jalons de cette rencontre, plus du point de vue de ce que cette technique apporte au sport. Donc on a quelques photographies réalisées en studio avec la difficulté de ne pas pouvoir saisir le mouvement. Et donc là, des attitudes très, très figées qui miment finalement les activités sportives. On a par exemple un portrait du célèbre champion breton Louison Bobet, photographié en studio sur son vélo, mais le vélo est fixé à terre. Et là, c'est d'abord la figure du champion, hein, héros cycliste, qui s'adresse alors à nous spectateurs, mais aussi au public qu'il a soutenu lorsqu'il était en activité. Et puis, à côté, on voit petit à petit se développer le mouvement. Donc, comment l'instantané va fixer les mouvements du sport, des athlètes, sauteurs de haies, des footballeurs, évidemment, mais aussi des gymnastes. Et au-delà de fixer le mouvement instantané, c'est aussi tout ce que propose le sport comme réservoir de forme, parce que les corps sportifs sont des corps qui ont des attitudes parfois sculpturales. Donc il y a une sorte de graphisme aussi qui est proposé par les mouvements sportifs, et en particulier par les mouvements de gymnastique, par exemple, comme on peut le voir ici dans l'exposition. Donc la photographie trouve dans le sport une inspiration à créer des images qui parfois sont aussi des images qui ont une dimension esthétique évidente. Et surtout, le photographe va toujours devoir trouver le bon point de vue, le bon cadrage que lui inspire justement la vision de ces corps en mouvement dont il va essayer de saisir la dynamique.
Oui, il y a aussi une dimension politique à la photographie. On peut évoquer les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Par le biais de la photo, le spectacle sportif, à ce moment-là, il devient un spectacle des corps dans lequel se lisent les connotations idéologiques. Je pense au corps idéalisé de l'athlète, avec des poses qui évoquent justement ces sculptures antiques et l'idéal arien, mais aussi le corps collectif des foules ordonnées, et tout ça sous fond d'étendards nazis. Dans ce cas de figure, la photographie, elle représente davantage qu'elle ne montre.
Alors c'est effectivement un des usages qui a été fait de la photographie, hein, qui a été aussi mis au service d'une propagande, et en effet cet exemple que vous citez est tout à fait pertinent justement dans cette référence effectivement à la sculpture grecque. Alors dans l'exposition, cette question n'est pas abordée parce que la collection du musée ne conserve pas du tout des images qui prêteraient à développer un propos, mais par contre c'est une question effectivement qui est importante et que j'ai eu l'occasion d'aborder dans un texte qui est publié à l'occasion de l'ouvrage Vivre le sport, qui est publié par les éditions Ouest France et qui est sorti à l'occasion de l'exposition.
Une affiche de la Fédération féminine française. Il y a une volonté de rendre ces lettres de noblesse au sport amateur, mais aussi au sport féminin peut-être, dans cette exposition.
Alors, il y a effectivement une volonté de rendre hommage au sport amateur et de re-questionner la place de la représentation des femmes dans le sport. Là aussi, la collection révèle ses manques. Il y a peu de photographies de femmes. ce qui n'est pas surprenant parce que c'est quelque chose, un constat qu'on peut faire de façon générale dans les collections, au-delà du musée de Bretagne. Mais effectivement, déjà, moi, j'ai privilégié, lorsque je l'ai pu, effectivement, de montrer des photographies de femmes sportives. Et lorsqu'elles sont représentées, c'est aussi intéressant de constater, effectivement, que c'est quelque chose qui est très inscrit dans des représentations de genre, puisque les photographies de femmes sportives sont essentiellement celles que l'on va voir représentant des activités de gymnastique. Donc c'est en effet ce que l'on a dans l'exposition. C'est aussi ce qui est présent pour l'affiche qui a été choisie. Justement, on voulait mettre en exergue cette question de la femme. Et donc ici, par exemple, on a cette affiche de la Fédération féminine française de gymnastique qui évoque... on est dans les années 20 et c'est le moment où... l'activité de la gymnastique féminine se développe. Donc c'est à la fois une référence à ces prémices de l'activité sportive féminine qui effectivement va s'inscrire dans les pratiques de gymnastique. Et c'est aussi une façon de montrer comment les mouvements qui sont proposés sont des mouvements qui sont effectivement très, très graphiques, qui évoquent aussi la façon dont on décompose le mouvement, ce que permet justement la pratique photographique.
Oui, quand la femme est représentée dans le sport, il y a une dimension qui est davantage esthétique.
Oui, du fait de la pratique de la gymnastique, la représentation de la femme reste finalement une représentation où c'est d'abord effectivement le corps gracieux qui va être mis en avant beaucoup plus que le corps dans son activité de performance. Ça inscrit aussi une imagerie féminine sportive qui là aussi perdure sur de longues années.
Et comment ces photographies ont été sélectionnées ?
Alors moi j'ai regardé l'ensemble de la collection et puis j'ai ensuite commencé à faire une sélection un peu large. J'ai réfléchi à l'histoire que j'avais envie de raconter avec ces images et ensuite j'ai réduit encore la sélection. C'est un travail qui se fait en plusieurs étapes.
Oui, un travail de longue haleine j'imagine.
Oui, et puis surtout essayer de trouver les justes équilibres aussi justement, de représenter une vision la plus complète possible de la collection, des types de sports qui sont présents, cette question qu'on évoquait de la présence des femmes. Donc d'essayer de trouver tous les équilibres qui à la fois servent le propos que je voulais développer, mais en même temps soient le reflet aussi de la collection. Ce qui fait que ce qui ressort aussi, c'est que la collection, elle a des manques. Il y a des sports qui sont surreprésentés, le foot, le cyclisme, d'autres qui, curieusement, pour la Bretagne, le sont sous-représentés, en particulier les sports nautiques. D'où le souhait du musée de faire une collecte auprès du public. Donc c'est ce qui est proposé à la sortie de l'exposition, d'inviter le public à venir compléter les manques de la collection pour essayer justement de faire quelque chose qui sera un meilleur reflet de l'histoire du sport en Bretagne que la collection ne l'est aujourd'hui, puisqu'une collection, c'est une histoire de dons. Et le public est invité à déposer un petit récit dans une urne ou sur le mur de la fin de l'exposition pour évoquer le témoignage et l'objet qu'il souhaite laisser au musée en lien avec ce souvenir.
Beaucoup de représentations de la coupe aussi, la remise de la coupe.
Oui, donc la remise de la coupe, c'est l'un des motifs réguliers qu'on va trouver évidemment fixés par les photographes. Donc la collection du musée est très riche sur les différentes victoires de coupe du Stade Rennais. Et là aussi, l'idée, c'était d'insister sur le côté très répétitif, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a deux photographies que j'ai mises l'une à côté de l'autre. En 1971, mais ça a été aussi le cas en 1965, on va sur le balcon de la mairie, l'équipe se réunit avec la coupe, présente la coupe au public de supporters qui est au bas, donc sur la place. Et finalement, on retrouve le même principe à différentes époques et le même type de photographie qui se répète. Voilà, donc il y a des constantes qui perdurent finalement et que la photographie va entretenir. Et c'est aussi une façon de fixer des événements dans la mémoire collective, parce qu'effectivement, ce sont ces images qui restent en tête de ces équipes tenant la coupe sur le balcon de la mairie.
L'évolution finalement, elle est plutôt technique et du côté de la photographie, le reste ne change pas.
Alors l'évolution, elle est technique, en effet, et la technique, elle se met au service d'une imagerie qui se répète, finalement. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on ne voit pas de changement majeur entre les photographies de la première moitié du XXe siècle et les photographies d'aujourd'hui. Alors la technique, elle fait évoluer, mais il y a quand même des constantes qui sont assez intéressantes à remarquer. C'était aussi un peu le projet de l'exposition que d'essayer de sensibiliser le public à ces constantes.
L'émotion du sport, elle transcende les époques, finalement.
Oui, tout à fait.
Nathalie Boulot, je vous représente, vous êtes historienne de l'art contemporain et de la photographie, mais aussi commissaire d'exposition pour Vivre le sport. Cette exposition a commencé le 23 mai, elle se terminera en février prochain, c'est bien ça?
Le 23 février, donc vous avez le temps pour venir la voir.
Thank you.
Banane et son tube, franchement, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à Canal B, et que vous pouvez retrouver sur un album, Nini, c'est son nom. C'est sorti le 5 avril chez Péché Mignon, et c'est le deuxième disque de Bonnie Banane, une Bretonne, tiens, qui était de passage à Mythos le mois dernier, qu'on retrouvera au festival du Foin de la Rue cet été, pas très loin de la Bretagne, et puis en tournée ailleurs en France jusqu'à l'année prochaine. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, un programme qui se termine chaque jour avec la recommandation du jour. Alors la recommandation du jour, c'est quoi ? C'est toujours en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre dans la région rennaise. Dans le même temps aussi des petits conseils d'associations à suivre sur le territoire. Aujourd'hui, on relaie plusieurs actions de l'association France-Palestine Solidarité qui sont organisées toute la semaine à Rennes. Ce mardi 4 juin à 18h pour commencer, une performance de hip-hop sera présentée Place Hoche en solidarité avec les victimes de Gaza. Samedi 8 juin à 15h, c'est un rassemblement auquel sont invités les Rennaises et les Rennais, c'est Place de la République, et juste avant, un festival multiculturel de musique du monde en bas des tours. Un rendez-vous à vivre Place Jean Normand dans le quartier du Blône de 17 à 21h. Enfin, dimanche 9 juin de 10 à 18h, place à un stade pour Gaza, un tournoi de football organisé au stade de la Poterie. Et sur place, il y aura des ateliers, des animations, des jeux pour enfants, de quoi manger aussi. Et les dons seront reversés à l'association médicale Palmed. Toutes ces actions, elles visent à alerter sur le massacre des civils en cours à Gaza et sur les attaques également menées contre des civils palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.